Radio Autre Culture, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons le groupe Ensemble EIA.
Bonjour.
Pour ce faire, nous avons Pierre Bouris, qui est chanteur. Bariton.
Bariton, oui. Autrefois, j'étais ténor. Maintenant, bariton. Oui.
Hélène Descarpigny, qui est elle...
Oui, Hélène de Carpigny, je suis soprane, moi.
Nous avons les instrumentistes et chanteurs également, Hervé Maillet.
Voilà, je suis contre-ténor, donc une voix aiguë pour un homme, au-delà du ténor, contre-ténor. Et puis je fais également des percussions.
Et nous avons alors les instrumentistes, Jean-Loup Descamps, qui est pour la vielle, le oud, c'est ça?
Oui, bonsoir, je joue principalement les instruments à cordes, frottés et pincés, vielle aiguë, disons vielle alto, vielle à bras, oud, sistre... Saz quelquefois, et d'autres choses aussi.
Et de temps en temps, il nous sert aussi de basse pour l'ensemble, basse chantante.
Chantante.
Ainsi que Sophie Vierne, qui elle joue de la vielle et du sitol.
Et de la sitol.
Et de la sitol.
Et puis éventuellement du saz, enfin bon, surtout de la vielle et sitol.
Des instruments qu'elle construit elle-même.
Voilà.
Qui sont des petites merveilles. Qui sont des petites merveilles. Alors, je vous ai rencontré lors d'une représentation au musée de Cluny. Il faut savoir que le musée de Cluny présente des groupes de musique. Et j'avais déjà vu un groupe de musique iranien, je crois, qui m'avait transcendé. Et quand j'ai vu l'ensemble EIA, je me suis dit, si le choix est aussi bon, je ne devrais pas être déçue. Alors, j'y suis allée avec une amie qui était spécialisée en histoire médiévale et qui, elle, est restée complètement enthousiaste. Bref, enfin, on avait les poils des bras qui se dressaient. Et je me suis dit, il faut absolument que je les aie, ces gens-là. Ces passionnés de musique médiévale. Alors, quelle est la genèse du groupe ?
Eh bien, l'ensemble EIA s'appelait au départ Ultra EIA et a été en fait le premier ensemble en résidence dans le musée, c'est-à-dire à faire régulièrement des concerts. Ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et donc, étant la plus jeune de cet ensemble, je suis aussi la doyenne de l'ensemble, puisque j'étais quasiment là au début de cet ensemble. Et c'était une merveilleuse aventure, parce que le fait de revenir systématiquement dans les mêmes murs, on se sent vraiment chez soi, et ça fait une sensation un petit peu de bienvenue à la maison. Voici notre cuisine familiale de musique. On a ce rendez-vous régulier depuis des années. Il y a 3 ans, une partie des musiciens, pour des raisons de changement de carrière ou de santé, a dû quitter l'ensemble. Et on a gardé donc la fin de Ultra EIA. Ultra est parti et EIA est resté. Donc on est devenu l'ensemble EIA.
Comment s'est fait le choix des voix ?
Par hasard, hein, comme beaucoup, comme souvent en musique classique. Hein. On entend des gens, on chante avec d'autres personnes, dans d'autres ensembles, puisqu'on fait tous partie d'autres ensembles aussi. Et puis on dit, ah bah tiens, cette voix-là, ça irait bien avec telle équipe. Et hop, on invite, on essaye. Si ça ne marche pas, on ne garde pas. Si ça marche, voilà, c'est de façon tout à fait humainement très très simple. Hein. C'est des rencontres et des hasards.
Vous avez fait des études tous musicales, comment ça s'est passé ?
Eh bien, par exemple, pour moi, j'ai appris le violon au conservatoire, en fait. Au début, quand j'étais petit, quand j'ai commencé comme ça. Mais très vite, en fait, j'étais attiré par toutes sortes de musiques, et notamment la musique médiévale. Alors ça remonte au milieu des années 70, fin des années 70, à la période où, justement, cette musique a commencé à exploser en France. Et puis, après, ben, l'intérêt pour les autres instruments s'est fait automatiquement, parce que quand on joue cette musique-là, eh bien, on est un petit peu obligé de tâter à d'autres choses pour trouver... On cherche tout le temps des couleurs nouvelles pour des nouveaux morceaux. Donc, tiens, si on essayait tel instrument, tiens, si on essayait l'autre. Voilà, ça se fait un peu assez souvent, en fait, dans cette musique particulièrement. C'est vrai aussi que les exigences techniques sont quand même pas aussi poussées que pour jouer, par exemple, le concerto de Brahms, pour prendre que celui-là. Mais effectivement, ça permet aussi de se diversifier, et c'est une très bonne chose pour cette musique.
Sophie. Alors,
moi, le chemin, eh bien, j'ai fait l'École normale de musique de Paris. J'ai passé mon diplôme de guitare classique. Et de là, je me suis intéressée aux luths, mais très très vite, j'ai entendu de la viole de gambe. Donc, j'ai décidé de faire la viole de gambe, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, dans différents groupes. Et de la viole de gambe, un jour, je me suis dit, tiens, je vais me fabriquer une vielle. Parce que je m'étais déjà fabriqué une viole. Et je me suis fabriqué une vielle. Et je venais à peine de la terminer qu'on me demandait de venir jouer dans ce groupe, ce qui est quand même assez étonnant comme hasard.
Tout ça parce qu'elle avait fabriqué une très très belle vielle avec une tête de dragon. On est tombés tous absolument amoureux de cet instrument. On a dit bon, ben, puisque c'est le maman, on la prend aussi. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça aurait pu. Hervé.
Alors moi j'ai commencé par la percussion il y a une trentaine d'années et puis je suis venu au chant après. Le chant, c'était il y a une vingtaine d'années, voilà. Et puis j'ai découvert, au départ, moi, c'était plutôt la musique baroque, entre autres Alfred Deller, qui est un des grands noms, évidemment, de cette musique. Et surtout le timbre de cette voix, de contre-ténor, qui m'a énormément plu. Et il s'avère que bon, là, les voix d'alto, de contre-ténor, apparaissent en fait à peu près à l'époque médiévale, c'est-à-dire à l'époque du XIIIe, XIVe siècle. Et donc voilà, sinon j'ai étudié effectivement au conservatoire de Rueil, Rueil-Malmaison, aussi bien la percussion que le chant.
Nos deux autres chanteurs, Pierre Bourris.
Eh bien, j'avais fait de la musique quand j'étais enfant, mais à l'adolescence, j'ai eu une sorte de crispation. Ce qui fait qu'il y a eu une éclipse qui a duré une dizaine d'années à peu près. J'ai recommencé à faire du chant quand j'étais au Congo, bizarrement, mais pas de la musique africaine néanmoins. Et en revenant en France, je me suis mis au grégorien. Et j'en ai fait pas mal avec un monsieur qui s'appelait Arsène Bedois, qui était organiste à Saint-Thomas d'Aquin. Quand je chantais là-bas, j'étais recruté par des gens de l'Orchestre de Paris. Donc je suis allé auditionner pour le chœur de l'Orchestre de Paris, avec lequel j'ai fait 3 saisons. Dans ce genre de grand effectif choral, il y a toujours des gens qui vous proposent des sous-ensembles, donc des ensembles vocaux, avec lesquels on faisait aussi beaucoup de musique ancienne. Et donc, j'ai rencontré Hélène lors d'un atelier du Centre de musique médiévale de Paris, et très aimablement, malgré tous mes défauts, elle m'a proposé de rejoindre l'ensemble.
J'ai été tout de suite conquise par la présence de Pierre. Il a un charisme extraordinaire, vraiment, on ne s'en lasse pas. Moi, j'ai toujours plaisir chaque semaine à revenir chanter avec lui. Il est en train de rougir dans son coin parce qu'il est très timide.
Et Hélène ?
Alors moi, moi, c'est une espèce d'immense chute à contre-rebours, à rebours du temps. C'est-à-dire que, comme beaucoup, j'ai commencé par la musique classique, même quand j'étais petite, parce que j'ai fait la maîtrise de Radio France en tant qu'enfant. Et puis, donc, la musique contemporaine, la musique classique. Et puis après, je suis rentrée dans une autre maîtrise, quand j'étais adulte, la maîtrise de Versailles en musique baroque. Alors, au début, c'était une maîtrise de chanteur, où on faisait le répertoire classique. Et puis, la deuxième année où j'étais dedans, d'un seul coup, c'est devenu complètement baroque. Je ne connaissais pas cette musique. Et je me suis retrouvée dans que de la musique baroque. Et ça m'a plu. Et puis là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait déjà partie de l'ensemble Ultreia, qui s'appelle José Canales, et qui m'a dit « Ah bah tiens, on cherche une chanteuse dans cet ensemble, viens essayer. » Alors moi, je ne connaissais rien à la musique médiévale. On a travaillé ensemble, on a essayé, ça m'a tout de suite plu. Et voilà, c'était le début d'une longue aventure. Et à un moment, donc j'ai chanté à peu près une quinzaine d'années avec Ultreia. Et puis à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose aussi. Je me suis dit, alors je suis partie, continuer d'autres concerts. J'ai arrêté Ultreia. Et puis au bout de 3, 4 ans, 5 ans, je crois même, à un moment, je passais à Paris au moment où il y avait un concert Ultreia. Alors je me dis, tiens, je vais quand même aller écouter les anciens collègues. Et puis là, j'ai été touchée. Je me suis dit, mince, mais ça, vraiment, c'était vraiment bien. Ça me plaisait de me retrouver avec ce public qui est très particulier. On a l'impression d'être en famille, d'avoir ces retours-là. À Cluny, au fur et à mesure des années, le public a eu plein d'histoires qui se sont créées extraordinaires. Et une petite dame qui, par exemple, elle m'avait vue enceinte. Donc chaque année, elle confectionnait des pulls pour ma première fille puis pour ma deuxième fille, une année plus grande à chaque fois, au moment de leurs anniversaires. C'est extraordinaire, enfin, que des histoires comme ça. Donc c'est vraiment, il y a des gens réguliers qu'on voit depuis des années, qui nous suivent. C'est cette chose-là qui m'a plu beaucoup à cet endroit-là. Le côté un peu à la bonne franquette.
Alors au niveau du caractère, moi j'ai trouvé que c'était un groupe très jovial, sauf la petite souris là à côté, qui faisait toujours très très sérieuse. En fait, je m'aperçois aussi que c'est une rigolote, parce qu'elle arrête pas.
Attention de ne pas la provoquer.
Pardon. Elle n'arrête pas de faire des jeux de mots.
C'est vrai, c'est une passion.
Mais j'ai été étonnée par cette joie de vivre que vous avez quand vous chantez. Alors je pense surtout à Pierre, quand il chante, il est extraordinaire parce que d'un seul coup, il a l'air d'être transcendé par ses chants et on a l'impression d'une joie de vivre extraordinaire.
J'aime beaucoup les langues aussi, je dois dire. Donc quand je chante en occitan, en galicien, ça me fait toujours très plaisir, en vieux français aussi. Et en anglais, Malheureusement, c'est plus rare, mais...
Et ce n'est pas parce que c'est de la musique médiévale que c'est de la musique pour des vieux. C'est-à-dire que... voilà, et je pense que ça peut être des musiques extrêmement gaies, et puis pour tout le monde, même si cette époque-là est assez méconnue. Moi-même,
c'est pas pour les vieux, puisqu'il y a des tas de cafés qui sont spécialisés dans des soirées médiévales et autres.
C'était une plaisanterie.
Non, mais en tout cas, vous êtes unis tous les lundis, avant le concert pour les tout publics. On fait le même concert pour les scolaires. On leur fait vraiment la même chose et on voit passer des classes à chaque fois, énormément, de tous les niveaux. Hein. Il y a eu des maternelles, mais c'est très rare. En général, c'est CP jusqu'à la faculté, quoi. Et c'est toujours un plaisir parce que là, on est vraiment obligé de vendre sa chemise et on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas.
Ce que je voulais dire, simplement, ce n'est pas de la vieille musique. Il y a des sources, on est proche aussi des musiques traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose de fantastique parce qu'on peut beaucoup voyager aussi avec tout ce répertoire divers et qui sort même d'Europe.
En vous écoutant chanter des musiques médiévales, on s'aperçoit que la musique traditionnelle, quand même, a de solides racines dans cette fameuse époque médiévale.
Elle a certainement des racines dans cette époque médiévale. Tout ça est très très difficile à définir. Il y a une chose qu'il faut quand même dire avant de parler de la musique médiévale, ce serait de plutôt dire les musiques médiévales, parce que c'est d'abord la période sur laquelle on travaille. Nous, on se cantonne du 11e au 15e siècle, ce qui est déjà 4 siècles de musique, c'est déjà énorme, mais ça a déjà démarré depuis 4-5 siècles avant. Si on rajoute tout ça, ça fait des styles de musique vraiment très différents. Donc, en partant déjà du principe que cette musique, en tout cas celle que nous on joue, elle est issue aussi de la musique religieuse, puisque de toute façon, on n'a aucune, mais alors là vraiment pour le coup, aucune trace de musique traditionnelle d'avant l'an 1100, 1200, enfin... Si tant est, il y en a eu déjà des traces, je veux dire.
Hein. Oui, d'accord.
Il y a forcément eu de la musique traditionnelle. Mais les traces, là, par contre, c'est vraiment plus difficile à cerner par rapport aux matériaux sur lesquels on peut travailler.
Et par rapport à la musique d'église aussi, quand même, qui était prévue pour être faite régulièrement, donc en général écrite à partir de...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le point de départ de beaucoup de musique a été la musique d'église. Puisque c'était la musique qui a été un peu la jonction entre tout le monde, entre, déjà le clergé, ça c'est évident, mais les gens qui allaient à l'église, ils apprenaient aussi, ils les entendaient ces chansons. Et ils les apprenaient par cœur, parce que c'était un peu toutes les mêmes, à partir d'une certaine époque, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que c'était la source aussi de pas mal de mélodies, et dans beaucoup de chansons de troubadour, on a des extraits, on a des petits bouts comme ça qui nous disent, tiens, c'est un Alléluia, tiens, c'est un petit extrait d'un chant grégorien qui a été tiré de son contexte et qui a été, lui, ensuite chargé d'autres paroles et ensuite qui a été transformé et puis divulgué d'une manière beaucoup plus large, quoi. En tout cas plus populaire.
Est-ce qu'on sait pour les fameuses ces voix si hautes qu'à Hélène ou qu'à Hervé, est-ce qu'on sait, parce que je pense que les femmes n'avaient pas le droit de chanter ici, à cette époque-là.
Alors, la grande question. C'est sûr que dans les monastères, on ne chantait pas à voix mixte. C'est-à-dire que même dans les monastères mixtes, comme par exemple à Fontevraud, les hommes ne chantaient pas avec les femmes. Par contre, il y a des monastères de femmes au Moyen-Âge, comme il y a des monastères d'hommes, et notamment un des plus importants manuscrits du Moyen-Âge du XIIIe siècle se trouve à Las Huelgas, dans un couvent qui a toujours été un couvent de femmes, et il a toujours été là, donc il a été commandé déjà à l'époque par des femmes, pour des femmes, donc on est sûr que au moins elles le chantaient, mais entre femmes.
Donc en Espagne, en Galice, c'est ça?
Voilà, en Galice, dans le nord de l'Espagne. Et sinon, effectivement, à l'église, les tessitures aiguës étaient chantées soit par des jeunes enfants, et pour les altos, des jeunes garçons, bien sûr. Et puis pour les parties médium aiguës, c'était donc des hommes qui chantaient dans leur registre de voix aiguë, comme tous les hommes peuvent chanter à la fois en voix de poitrine et en voix de tête. Donc ils pouvaient choisir et donc ils avaient le panaché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'écriture, surtout ce qu'on a retrouvé d'après les clés d'écriture, c'était la principale façon d'écrire, c'était pour trois ou quatre pupitres d'hommes.
D'accord. Alors dites-moi si je me trompe, vous avez dans votre registre de chansons, vous avez des chants allemands, des chants donc galiciens, espagnols, des italiens.
On a des italiens aussi, on a de la musique. Notre travail consiste à proposer au public une vision de ce qui était ou de ce qu'on pouvait entendre par période. Donc nous, on travaille sur, par exemple, un siècle ou deux. Là, on a un programme de chansons de troubadours et de trouvères qu'on va donner le week-end du 8-9 mai 2010, là au musée. Et donc, dans ce programme, eh bien, il y a du galéo portugais, comme la chanson La Cantiga de Santa Maria. Il y a des chansons en bas-allemand, effectivement, puisque le mouvement qui s'est créé par Guillaume IX de Poitiers à la fin du XIe siècle, eh bien, il a essaimé à travers toute la France. Il est monté dans les pays de langue d'oïl, donc d'ancien français, si on voudrait caricaturer. Voilà. Et ensuite, en Allemagne aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a des chansons de trouvères allemands qui s'appelaient les Minnesänger, les chanteurs de cour d'amour, les chanteurs courtois. C'est la même signification, c'est la même racine. Et d'ailleurs, il y a certaines chansons qui ont été créées, inventées par des troubadours qui ont voyagé aussi dans le temps et dans l'espace et qui se sont retrouvés chantés à la fois aussi en ancien français, en allemand, enfin en plein de langues, parce qu'une musique plaisait à plein de gens et donc ils l'adaptaient à leur sauce aussi à cette époque-là.
Et le registre anglophone ?
Alors le registre anglophone, je me permets...
Parce qu'il y a Pierre qui se disait, oui, parler en anglais.
En fait, ce qui se passe... Bah, vas-y Pierre.
Non, toi.
Bah, en fait, le problème de l'Angleterre, c'est qu'il fait très humide et qu'il pleut beaucoup. Donc on a perdu quasiment toute la musique écrite de l'Angleterre, alors qu'on sait qu'il y en a fait encore plus qu'en France. Le problème, c'est qu'il y a eu des problèmes politiques, ça a pas été, tout ça est amoisi, pourri, c'est perdu. La monumentale musique anglaise du Moyen-Âge, on n'en a que des toutes petites parcelles, quelques fragments polyphoniques,
et
la plupart est perdue. Voilà, c'est pour ça.
Il y a aussi une autre réalité, c'est qu'à cause de la religion, qui a évidemment été le point central, le point actif de l'écriture, les traces ont essaimé à partir des grands centres religieux. Et effectivement, l'Angleterre a été christianisée assez tôt, mais les grands centres religieux étaient quand même sur le continent pendant très longtemps, plus que sur l'île d'Angleterre. Et donc, il y a aussi ce phénomène qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a aussi un répertoire qui s'est développé, qui a disparu, et aussi qui s'est développé indépendamment du répertoire continental, mais plus tard, je dirais. C'est-à-dire que les premières chansons, les premières traces de chansons en anglais, par exemple, pour parler d'un phénomène important, c'est celui de la langue du pays, de l'endroit où ça se fait, eh bien, il y en a très très peu. Les premières, c'est 13e siècle, quoi.
Oui, c'est ça.
On n'en a pas avant. La première chanson est une chanson d'amour très jolie.
Au niveau des instruments, maintenant. Alors, les instruments, on nous a dit que Sophie avait construit ses instruments.
Et à chaque fois au musée, à chaque fois, les gens sont ébahis. Et elle reçoit toujours des salves d'applaudissements, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant de voir la qualité de la facture. C'est très, très fin.
Alors, comment s'engage-t-on à construire son propre instrument ?
Eh bien, c'est grâce à une amie qui est luthier, qui s'appelle Judith Kraft. D'ailleurs, la vielle de Jean-Loup est de Judith Kraft. Et moi, j'étais assez bricoleuse, mais genre poser des étagères, quoi. Et puis Judith m'a dit il y a de nombreuses années, mais pourquoi tu te ferais pas une viole de gambe ? Et voilà. Donc je me suis fait une viole de gambe. Ça a été assez dur, je dois dire. D'ailleurs, je l'ai appelée Adrénaline. Et puis, de nombreuses années après, j'avais envie de me faire une vielle comme ça. Ça commençait à me travailler un petit peu. En fait, ce qui me préoccupait le plus, c'était la tête. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les gargouilles. Et c'est pas facile à trouver, pardon, la documentation sur les gargouilles. Donc finalement, je me suis inventé ma propre gargouille. Donc j'ai fait une tête, une espèce d'oiseau bélier, quoi. C'est ça qui m'a, en fait, guidée. C'est l'idée de cette sculpture. Et puis, quant à la fabrication, j'avais décidé de faire une vielle qui serait un peu tardive. C'est-à-dire, plus les vielles à table complètement plate, très archaïque, c'est déjà un instrument qui chemine doucement vers la viole. C'est-à-dire que pour moi, elle correspondrait à l'époque de Dufay, Josquin, comme instrument. C'est-à-dire que la table est légèrement bombée. Enfin, il y a des choses techniques précises. Cela dit, bon, on s'inspire en regardant les sculptures, l'iconographie, mais au final, moi, je l'ai complètement inventé, quoi. C'est pas du tout original, parce que je pense que tout le monde faisait ça. Je pense que de tout temps, il y a eu des instruments inventés, avec des formes inventées. Et puis plus tard, je me suis fait une citole. De la même façon, j'ai fini par inventer la forme, en grande partie.
Alors au niveau son, qu'est-ce qu'elles apportent de plus par rapport à un instrument actuel, dirais-je, de viol de gambe ou autre ?
Alors au niveau son, vous voulez l'entendre peut-être ?
Voilà, ça serait bien.
Ça serait ça. Alors ça, c'est une grande vielle qu'on tient avec les jambes.
Hein. Oui.
Jean-Loup en a une qui tient un peu comme un violon. Hein. Ça dépend un petit peu de la taille. Et donc, je vais vous faire entendre un petit peu cet instrument.
ça a des sons un peu particuliers quand même.
C'est normal parce que là, on a des cordes en boyau principalement. Ouais. Donc c'est des cordes qui réagissent différemment des cordes de violoncelle, par exemple, qu'on a plus l'habitude d'entendre maintenant. C'est vrai que c'est des cordes. Les cordes modernes sont des cordes en nylon, souvent filées, avec un filage autour de métal, qui leur donne un son très précis à l'attaque, et une plus grande tension, une plus grande puissance aussi. Là, c'est des cordes en boyau qui sont donc une matière tout à fait naturelle, boyau de vache ou de mouton. Pacha, comme on l'a dit très longtemps.
Non, pacha.
Pacha, non, pacha. Parce qu'en fait, ça vient... Alors là, ça, c'est bon à savoir. C'est qu'en fait, on disait catgut. Et en fait, catgut ne vient pas de cat, le chat, mais de kettle, qui veut dire le troupeau.
Ah oui.
Et donc, c'est des boyaux d'animaux qui vivent en troupeau, donc pas les chats, ça c'est sûr. Voilà, donc le boyau, ben, ça a cette caractéristique un peu plus feutrée, un peu plus âpre, avec une attaque aussi qui peut être plus douce. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un matériau plus souple que le métal, forcément.
Oui, bien sûr.
Et donc, en parlant de métal, ben, il y a justement la petite citole de Sophie qu'elle va jouer un petit peu là, et qui a des cordes en métal, parce que justement, ça se faisait aussi au Moyen-Âge, des cordes en métal.
C'est vrai.
Voilà, un petit morceau de Bartok joué à la vielle.
C'est un instrument à combien de cordes là ?
Eh bien, il y a quatre cœurs en fait.
Et sur le travail de la, comment s'appelle, du,
de la rosace,
du volume pour le son.
Du
comment
volume.
Oui, je veux dire par
la
rapport...
grandeur de la caisse et
ouais,
tout ça.
Ouais.
Ah ben, ça, c'est vraiment au feeling. Voilà, je me suis dit, ben tiens, si je faisais ça comme hauteur. Et c'est une caisse qui a la particularité d'être creusée dans la masse. C'est-à-dire que les éclisses, enfin le fond, tout ça, on est arrivé à 3 mm à peu près, mais c'est creusé. Jusqu'à ce qu'on arrive à laisser que 3 mm d'épaisseur.
Très bel instrument en tout cas, vraiment très très beau. Quand vous avez construit vos instruments, vous aviez déjà une idée au niveau du son et de pouvoir jouer par rapport à d'autres...
J'imaginais, mais c'est complètement la surprise hein, de toute façon. J'imaginais un son.
Et vous n'êtes pas raté, c'est-à-dire que vous n'avez pas recommencé plusieurs fois ?
Non.
Et vous n'en avez pas construit d'autres ?
Si, je viens de finir un luth qui pour le moment ne me satisfait pas complètement. Je suis en recherche pour l'accord et pour les cordes. Il est très beau, mais pour le moment le son n'est pas très intéressant.
Alors ce sont des instruments de quelle époque exactement qui commencent, on les voit apparaître à partir de quel moment ?
Ben, on a de la chance pour les instruments parce qu'il y a quand même une très grande iconographie, qu'elle soit sur les manuscrits ou sur les chapiteaux. Enfin, on a quand même pas mal d'exemples. Je crois qu'il y a eu une très belle émission ici avec des spécialistes il y a une année, là, avec Lionel Dieu et Christian Brassy notamment, et qui ont très bien parlé de ça. Disons qu'on a par exemple un manuscrit exceptionnel qui est un manuscrit du XIIIe siècle, qui est celui des Cantigas de Santa Maria, qui est un manuscrit qui a été commandé et peut-être en partie réalisé, enfin on ne sait pas très bien, par le roi Alphonse X, le roi Alphonse X le Sage, qui était roi de Castille et d'Aragon, donc en Espagne, de 1220 à 1280. Et ce manuscrit exceptionnel est rempli de miniatures qui représentent tous les instruments qui étaient joués à cette époque-là, par couple, la plupart du temps, et quelquefois même par des couples mixtes, c'est-à-dire un joueur occidental avec un joueur oriental, puisque cette cour était une cour cosmopolite, la cour de Al-Andalus, en partie, avec donc des musiciens arabes, juifs et occidentaux. Donc on voit tous ces instruments, on les voit assez précisément. Alors, on ne voit pas, comme disait très très justement aussi Lionel Dieu l'autre fois, on ne voit pas l'intérieur de l'instrument. On ne sait pas comment il était, on ne sait pas s'il y avait des pièces en plus, s'il y avait des éléments qui permettaient de le faire sonner d'une manière ou d'une autre. Mais on a la forme, on a toutes les formes et on a à peu près toutes les familles d'instruments. Donc ça, c'est déjà un très très grand intérêt pour nous. Et on se base la plupart du temps sur ce genre de documents pour créer un instrument. Donc la citole de Sophie qui est une invention, c'est une invention, mais en même temps, elle a des sources qui viennent de ce type de documents, donc de ces miniatures des cantigas. La vielle, elle a une tête particulière, elle a une forme un peu particulière, mais on la retrouve aussi sur des peintures du 15e. Pas tout à fait pareil, évidemment, mais elle se rapproche de ça. C'est vrai que nous, notre parti pris, c'est pas de faire de la reconstitution historique comme certains luthiers, comme Christian Rau, par exemple, qui va mesurer les côtes d'une vielle sur la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle ou de Chartres, et qui va la refaire à l'identique, en espérant ou en imaginant que ça peut être l'instrument tel que le sculpteur l'a vu et donc l'a sculpté.
Oui, mais il l'a vu dans une certaine région.
Alors ça diffère selon les régions, ça diffère selon aussi la volonté des musiciens qui ont chacun leur propre instrument, parce qu'il n'y avait pas de travail en série. Donc chaque instrument était aussi différent. Il y a beaucoup de choses qui font que ben, finalement on a pas mal de liberté sur ces instruments, sur la potentielle sonorité qu'ils peuvent avoir malgré tout aussi. Même si on s'en rapproche de plus en plus, puisque la recherche est quand même assez forte dans ce sens-là.
Et moi, c'est un petit peu ce qui m'a passionnée aussi dans la musique médiévale, en venant de la musique baroque, c'est cette part d'ombre, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais exactement tout savoir de cette musique-là, parce que contrairement à la période baroque qui s'est beaucoup écrite au niveau traité et choses comme ça, au Moyen-Âge, on a très très peu de sources. Donc il y a toute une partie qui est quand même de la reconstitution actuelle, d'où l'intérêt un petit peu pour nous, parce que l'intérêt de ce détournement finalement, parce que on ne peut pas vraiment dire qu'on fait de la musique comme à l'époque, c'est impossible, personne ne peut vraiment le dire, ce qui nous permet éventuellement de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté, notamment sur les recherches de timbres, et c'est là aussi où c'est intéressant, parce que quand on travaille la musique des troubadours, des trouvères, finalement, c'est un peu comme la musique de variété actuelle, c'était la musique de variété de l'époque, dans le sens que c'était de la chanson accompagnée, donc on a retrouvé que les parties de chant, jamais les parties d'accompagnement, avec les textes. Donc en fait, il faut reconstituer à chaque fois, refaire un arrangement d'une chanson où on n'a que la mélodie. Ce qui est la même chose que pour toute la musique de variété. La différence qu'on a, nous, c'est qu'on travaille sur des instruments acoustiques. Et ça, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a plein de timbres, la façon de transmettre cette musique-là, de vive voix, avec un public qui est très très proche au musée de Cluny, sur des instruments qui ne sont pas sonorisés, ça a quelque chose de particulièrement touchant, je trouve. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé aussi sur ce Moyen-Âge, c'est ce côté direct. Quand on fait des choses, par exemple, vous entendrez la messe de Notre-Dame peut-être, ou des choses a cappella, c'est-à-dire que les chanteurs, c'est vraiment juste des voix, même pas de micro, c'est d'être humain à être humain, complètement direct.
Au niveau de toujours des instruments à cordes, Jean-Loup, là je vous ai vu jouer avec un oud.
Alors, je vais prendre le oud tout de suite.
Pendant que Jean-Loup s'installe, je voulais dire aussi, revenir sur cette histoire de recherche de timbres, parce que je trouve qu'actuellement, souvent, finalement, avec tous les systèmes de transmission de la musique, on écoute la musique dans des qualités d'écoute qui sont bien moindres que celles qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que mes enfants, par exemple, ils s'en fichent d'écouter un disque sur leur, par exemple, sur leur téléphone portable, alors que le son n'est pas très beau. Nous, on a vraiment avec la musique médiévale, enfin moi, ça m'a aiguisé, ça m'a donné le goût des recherches de timbres vraiment comme plus subtils, vraiment comment les choses s'associent de façon très très simple les uns aux autres. Et c'est cette recherche-là aussi qui est intéressante. On a des flûtes en cornes, des flûtes en bois, le matériau qu'on entend beaucoup plus aussi que dans les instruments actuels. On entend le bois, on entend la corde, on entend tout ça. C'est ça aussi qui me plaît. Alors là, vous allez entendre.
Le oud, c'est évidemment l'instrument, un des instruments principaux de la musique arabe, même actuellement. Et c'est un instrument qui est très, 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 très vieux, plusieurs millénaires. Le nom oud veut dire bois, l'instrument qui est en bois, tout simplement. Et je ne vais pas parler plus, hein, je vais juste faire quelques notes. C'est vrai que c'est un instrument qui est chouette parce que, sitôt qu'on fait deux notes de cet instrument, on est déjà parti ailleurs, en fait. Et ça, c'est à la fois une force et puis un danger parce que il y a une couleur que nous, maintenant, on associe au pays arabe. Alors qu'en fait, c'est vrai que l'instrument tel qu'on le joue dans musique médiévale, il est joué, allez, comment je peux dire ça, entre guillemets, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore les frettes, les barrettes, comme le luth. Et donc, chaque note peut être glissée avec le doigt, comme... voilà. Donc ça donne un son particulier, c'est le son du bout du doigt sur la corde qui est appuyé sur la touche. Et c'est vraiment un son, comme dit Hélène, c'est un son pur, quoi. C'est un son, c'est le bois qui résonne, voilà. La dernière chose que je voulais dire par rapport au oud, c'est qu'on l'utilise par exemple dans une chanson de Minnesänger, donc une chanson d'un trouvère allemand. Mais pour moi, ce n'est pas un instrument arabe qui sert sur une chanson allemande et qui donnerait une couleur orientale. Ce n'est pas le problème de mettre de la world music quelque part. C'est vraiment trouver un son particulier et d'avoir une ambiance grâce à ce son. Et donc, voilà, au Moyen-Âge, eh ben, le luth n'avait pas le son précis du luth 18e, de l'archiluth ou du théorbe, etc. C'était forcément aussi quelque chose de peut-être moins puissant, plus timbré un peu comme le problème des cordes en boyau dont on parlait pour la vielle tout à l'heure.
Et voilà. Puis, en plus, la plupart des instruments de musique du Moyen-Âge, les plus grandes familles d'instruments ont été rapportées pendant les croisades, notamment tout ce qui est du domaine du rebec, c'est-à-dire le rebab, toutes les guitarnes, les percussions aussi. Il y a eu un énorme échange à l'Andalous au Moyen-Âge, pendant les croisades aussi. Et donc c'est pour ça que c'est tout à fait justifié d'utiliser des instruments du bassin méditerranéen pour la musique du Moyen-Âge. Ils le faisaient déjà à l'époque.
Là, je vois que vous avez pris un deuxième instrument.
Voilà. Alors ça, c'est un sistre qui a une particularité, c'est le luth à long manche, comme on dirait le oud et le luth à manche court et à caisse assez volumineuse. Eh bien, le sistre est plutôt un instrument à manche long avec une caisse assez petite. Et le modèle que je joue est un sistre, mais en fait, c'est, je dirais, un avatar moderne, puisque lui, il vient de Bulgarie. C'est un instrument traditionnel bulgare qu'on appelle tambura. Il a un petit son que j'affectionne particulièrement.
Pour quel type de chant
Celui-là, j'utilise, comme je viens de faire, un peu pour des chansons un petit peu entraînantes. Enfin, là, c'était une chanson de mal mariée du XIIIe siècle, d'ailleurs. Ça existait déjà. Grande tradition. Et puis, un peu, quand on travaille la musique italienne du XIVe siècle, je m'en sers aussi comme on dirait, d'un luth dans une basse continue. C'est-à-dire des accords très simples, pas aussi chargés que les accords plus modernes, mais qui servent à ponctuer aussi la mélodie. Je ne vais pas faire d'exemple, mais sinon, l'autre utilisation, c'est vraiment je dirais, c'est un son un peu comme un clavecin, puisque c'est une corde double pincée en métal. Alors, on entend l'attaque, on entend que la corde est doublée, et donc on a aussi un son qui est proche du clavecin, d'une certaine manière. Je l'utilise aussi en monodique, disons, pour accompagner la voix. D'accord. Donc nous avons une chanson avec Hélène qui s'appelle
12 amis,
que nous jouons à deux et que vous allez entendre.
Oh.
voudrais passer à Hervé. Hervé qui s'occupe des percussions. Alors moi j'ai remarqué que vous aviez en fait un instrument oriental.
Même deux, voire trois.
Deux,
je vais vous faire juste écouter d'abord le rec, qui est un petit tambour sur cadre qui vient plutôt du Proche-Orient, d'Égypte précisément. Simplement une armature en bois circulaire sur laquelle est collée une peau de chèvre. Et puis il y a également des petites cymbalettes. Donc je vous fais juste écouter le son de la peau déjà. Et puis le son des cymbalettes. Et donc l'alternance un peu des deux. Voilà, par exemple. Également.
Alors, juste une question, la différence avec un tambourin.
Un tambourin, je pense qu'il y a les plus petites cymbalettes. Non, et puis, il n'y en a pas toujours, en plus.
Tambourin, c'est une dénomination moderne d'un instrument qu'on trouve partout autour de la Méditerranée. D'accord. Ça, c'est un tambourin. Les Égyptiens disent tambourin aussi. Hein. Ils disent, moi, je joue du tambourin.
D'accord.
Mais le vrai nom, c'est bien rec.
C'est d'accord. Comme pour le pipeau, hein, c'est pareil.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y en a qui jouent de la flûte. Et...
Hélène, on va parler des pipeaux tout à l'heure. Donc là, c'est le rec.
Voilà, c'est le rec. Donc, et puis, il y a également un instrument qui est beaucoup plus grand, qu'on appelle le daf, cette fois-ci, et qui nous vient plutôt du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Voici quelques... Là, c'est pareil. Une armature en bois, sur laquelle est collée une peau donc, de chèvre. Et puis, il y a également derrière des petits anneaux. Je vais vous faire écouter un petit peu d'abord le son. Avec les anneaux.
Voilà, donc là, il fait à peu près 80 cm de diamètre, cet instrument,
oui,
quand même. Hein.
Alors, pourquoi le choix ? Est-ce qu'il y avait des instruments de ce type-là à l'époque médiévale ou avec des sonorités qui pourraient
en tout cas,
être équivalentes ?
Il y a des traces, comme disait tout à l'heure Jean-Loup, sur l'iconographie. Et on voit effectivement des joueurs de tambourins, entre autres. Il est certain qu'il y avait des instruments, peut-être pas celui-là précisément, mais en tout cas des joueurs de percussions.
Puis des percussions avec des tas de formes aussi étranges. Il y a des tambours carrés, octogonaux, toujours le même principe d'un cadre en bois avec une peau. Alors c'est plus facile de faire un tambour carré qu'un tambour rond. Les deux existaient avec des cymbalettes, sans cymbalettes, toutes les formes.
Même,
il y avait des tambours à double
Il y avait même
peau.
Des triangles carrés.
On a vu des trucs incroyables.
Et troisième instrument, donc
un c'est... troisième instrument, alors là, c'est un instrument qui nous vient plutôt d'Inde, qu'on appelle un noudou. Alors là, c'est une jarre, je dirais, donc une poterie, qui est une forme de vase. Et puis, la différence, évidemment, avec le vase, c'est qu'il y a aussi un trou sur le côté, qui permet d'avoir cette sonorité.
Alors là, c'est,
c'est un voyage. Hein.
C'est un voyage, là, oui.
C'est un voyage aussi. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est qu'une jarre. Et que des jarres, il y en avait dans le monde entier. Donc, de toute façon, de là à se dire qu'on peut taper sur une jarre pour faire un son, ça paraît évident, mais je pense que c'était une réalité aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une vue de l'esprit de dire il y avait des jarres, donc on jouait de la jarre, comme disait
Émile.
Mais là, c'était vraiment des instruments. Alors, des instruments qu'on trouve toujours en activité, celui-là particulièrement en Inde, mais on en trouve aussi au Brésil, en Afrique noire.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, c'est des instruments qui sont universels. Il n'y a pas d'un endroit précis. Enfin, voilà.
Alors, autre instrument qui m'a un peu surpris lorsque je suis venue vous écouter en concert, c'est la corne.
La corne.
Ah,
alors, la flûte en corne. Alors évidemment, il y a des flûtes en os, des flûtes en bois. Alors le tour à bois est apparu seulement encore les Arabes qui nous l'ont amené au IIe siècle, je crois. Donc avant, c'était très difficile de faire un trou dans une pièce de bois. Donc on utilisait plutôt des matériaux qui étaient naturellement creux, par exemple les roseaux, les os et les cornes de vache. qui était déjà creux. Eh bien, Machaut, dans un de ses poèmes, cite « cornes plus de 10 paires » dans une énumération d'instruments. Donc, alors, on sait qu'elles étaient...
Là, vous parlez de cornes et de bois. Et je fais juste une petite aparté. Nous avions fait une émission avec Eric Nussbaker, qui est un monsieur qui est plasticien, mais qui est également musicien. Et il a pris un squelette entier de cerf et il a fabriqué tous les instruments de musique qu'on pouvait trouver. Wow. Et alors, le plus amusant dans l'affaire, c'est quand il a fabriqué ses propres instruments, les archéologues préhistoriens ont retrouvé du même type des instruments de musique qui avaient été faits à l'époque. Et lui, naturellement, avait pu les refaçonner. Alors, si vous voulez entendre des sonorités, il faut écouter Eric Nussbaum.
volonté, c'est passionnant.
C'est assez extraordinaire. C'est très chamanique comme ouais. type de son.
Alors, c'est là... sûr que quand on trouve un instrument, une pièce creuse, de toute façon, il y a de fortes chances pour essayer de la faire sonner, hein, ça c'est sûr. Alors le système de la corne, donc c'est une corne de vache, alors elle est assez grande. Soit on ferme la partie la plus grande avec du bois ou n'importe quelle texture et on ouvre une petite partie pour faire un sifflet, donc ça fait le système de la flûte à bec, mais globulaire puisque la sortie est complètement... il n'y a pas d'orifice à la sortie, c'est complètement fermé. Soit on l'utilise dans l'autre sens et on trouve, c'est le fameux olifant de Roland. Tout à fait, oui. Et là, c'est le système de la trompette où on fait la vibration avec les lèvres et ça résonne dans l'instrument.
Vous pouvez nous donner un petit exemple des sons très particuliers? Assez bas, donc comme son.
Alors, ça existe par famille, hein, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir des beaucoup plus aigus, si on prend une petite vachette, et des beaucoup plus graves. Alors moi, je ne peux pas faire très grave, parce que j'ai des petits doigts, ça rentre dans les trous. Je n'ai pas la poigne pour pouvoir avoir la main assez grande pour pouvoir jouer les cornes basses, mais il y a aussi des cornes encore plus grandes qui peuvent jouer encore une octave en dessous.
Comment s'est fait justement cette répartition des instruments entre vous deux sur les tonalités des instruments? Je parle à Jean-Loup et à Sophie. Jean-Loup joue de la vielle?
Oui, mais vielle aiguë plutôt, voilà.
Vielle aiguë.
Certaines nécessités qui sont imposées par le morceau ou par la tonalité que nous proposent les chanteurs, parce qu'on adapte aussi les morceaux en fonction de la hauteur de la voix. C'est-à-dire que quand on a une partition, une retranscription d'un morceau, on l'a dans une tonalité, eh bien on peut dire, le chanteur dit « Ah, c'est trop haut pour moi » ou « Trop bas, on va la monter, on va la baisser », etc. En fonction de ça, eh bien on voit quels instruments il est préférable d'utiliser. Et puis la répartition entre les instruments de Sophie et les miens, c'est pas très compliqué, puisque elle joue plutôt les instruments plus graves, enfin la vielle en tout cas est plus grave, la sienne, la mienne plus aiguë. Donc on se complète déjà sur des hauteurs différentes, donc aussi un peu un timbre différent, même si des fois on peut jouer des pièces comme on a une petite duo de Josquin Després qui est assez confondant, parce que des fois on ne sait plus qui joue quoi, parce que c'est très bien écrit d'abord, et à cause de la sonorité des instruments, bien les notes passent de l'un à l'autre et on ne sait plus. Et puis après c'est des choix esthétiques, c'est des choix de se dire tiens on aimerait bien tel instrument pour tel morceau, et puis on fait avec ce qu'on a aussi, c'est-à-dire qu'on ne joue pas beaucoup d'instruments avant, parce qu'on est principalement instrumentiste à cordes. On en utilise un petit peu, donc la flûte en corne. Hélène joue de la flûte en corne. Il y a aussi un programme dans lequel, des fois, elle peut jouer du basson Renaissance. On peut jouer d'une petite clarinette ancienne en roseau. On peut jouer d'une flûte. Enfin, voilà, c'est quand même parcimonieux du côté des vents. Mais le passage, le choix des instruments, il se fait, c'est surtout esthétique. Voilà. C'est-à-dire qu'on se donne une idée. Ce morceau-là, je l'entendrai comme ça. Je l'entendrai avec telle couleur d'instrument. Et puis, on voit ça avec les chanteurs. Et ça se fait un peu en essayant de trouver une couleur particulière pour chaque morceau, bien entendu, quoi, pour pas se redire trop.
On va s'arrêter là pour la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons commenter vos thématiques de concert. Bien, je vous remercie tous.
Merci.
À plus tard. Autre radio, autre culture. Au revoir.
Autre radio, autre culture.